France Inter.
Les sociétés changent de peau comme les serpents, mais le venin reste le même et il y a seulement des mutations dans la desquamation. Tous les serpents ne sont pas venimeux, mais ils n'en sont parfois que plus dangereux. Voici un bel assemblage de cobras, de crotales, de pythons, d'anacondas, de vipères, un grouillement de reptations à l'affût. Si vous n'êtes pas piqué, étouffé, ingurgité, on vous fera avaler des couleuvres. Le serpent vient de loin. Et il rampe loin. Ce soir, Philippe Solaire, c'est notre invité. Et comme chaque soir, nous allons commencer en musique. Et pour lui, et grâce à lui, nous allons tout de suite dans un monde vraiment merveilleux.
I see trees of green, red roses too. I see them blue. For me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They learn much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Vous aviez quel âge, Philippe Solaire, quand vous avez entendu Louis Armstrong à Bordeaux ?
12 ans, je m'en souviens très bien. J'avais réussi à avoir une place tout près de la scène. Et j'ai regardé, c'était une très très grande émotion. La guerre a été gagnée par les musiciens de jazz, comme vous savez. C'est eux qui ont gagné la Seconde Guerre mondiale. Et donc c'était intéressant de les voir, de voir celui-là, légendaire. Avec sa trompette, c'était éblouissant. Et je regardais surtout sa main, lorsqu'il avait fini un contre-truc enfin, prodigieux, le mouchoir, et là, les lèvres éclataient, il y avait du sang dans le mouchoir. Ça, c'est une image prodigieuse.
Alors, les bruits de la guerre, vous en parlez dans vos derniers textes, vous en parlez dans Beauté, vous en parlez dans Mouvement.
Partout. Pour moi, la guerre, c'est très spécifique. C'est à Bordeaux, où je suis né, dans une famille anglophile, ce qui m'a évité une culpabilité.
Qui écoutait la BBC.
Qui écoutait, voilà. Les Allemands occupaient le bas des maisons, Bordeaux était ville occupée. Et on se cachait dans les greniers pour écouter Radio Londres. Ici, Londres, les Français parlent aux Français. Et voici quelques messages personnels. Alors là, j'ai 5 ans. Hein. Ça m'a paru tout à fait extraordinaire, comme, comme le jazz, mais d'une façon poétique, intense. Et voici quelques messages personnels. La radio était brouillée. Bon, les carottes sont cuites, je répète, les carottes sont cuites. Rodrigue ne parle pas l'espagnol. Rodrigue ne parle pas l'espagnol. J'aime les femmes en bleu. J'aime, je répète, j'aime les femmes en bleu. Nous nous roulerons sur le gazon. Je répète, nous nous roulerons sur le gazon. Bon, c'était extraordinaire parce que à qui ça s'adressait ? Est-ce qu'il fallait faire sauter un pont, dégager tout de suite parce qu'on allait être arrêté, etc. Une atmosphère extrêmement, extrêmement perturbée. Le bas des maisons, donc, j'entendais l'allemand. En haut, c'était Londres qui parlait en français. Les Français, ça parle aux Français. Et puis, il fallait cacher les parachutistes anglais. Il y avait des bombardements magnifiques, enfin, splendides. Des batailles dans le ciel, mais inoubliables. Donc, c'est ça, mon enfance. Et il fallait cacher les aviateurs anglais pour les faire passer par un circuit spécial pour l'Espagne. Ça, c'est mon enfance la plus marquée.
Et votre mère ?
Ma mère est
là. Vous commencez à en parler depuis quelques années ?
Oui. Elle était là, elle est une femme absolument adorable. J'ai beaucoup aimé mes parents, contrairement à la doctrine classique. Je dois m'excuser de deux choses. Un, je n'ai pas mon visa d'origine modeste. Je suis désolé, mais ça m'est tout à fait reproché. À quoi bon mentir ? Non, je n'ai pas mon visa.
Vous êtes un sale bourgeois.
Et je suis un merveilleux bourgeois d'une région.
Oh, bah vous avez essayé de vous encanailler à plusieurs reprises dans votre existence.
Oui,
et effacer vos origines bourgeoises, quand même.
Je les ai poursuivies, au contraire. C'est-à-dire qu'il n'y a que les bourgeois qui sont révolutionnaires. Je ne vous apprends rien. Les autres n'ont pas le temps et sont préoccupés par le fait de devenir bourgeois un jour. Laissons ce mot de bourgeois. On est à Bordeaux, c'est-à-dire dans un pays très civilisé.
Le paradis sur terre. À vous croire quand on vous lit.
Si vous connaissez le meilleur vin, dites-le-moi. Si vous connaissez c'est un pays de savoir-vivre très profond. Le maire s'est appelé Montaigne. Bon, quand même. Ce qui fait que, par exemple, un président de la République, j'ai trouvé ça délicieux, pour asseoir sa légitimité, s'est fait photographier par une très grande photographe qui s'appelle Gisèle Freund, pour une photo tout à fait officielle, c'est Mitterrand en train de lire les essais de Montaigne. Je ne sais pas s'il les a lus vraiment ou en feuilleté. Mais enfin, en tout cas, c'était formidable, parce que dans tous les commissariats de police, on tabassait au nom de Montaigne, voyez-vous. Enfin, c'est que Montaigne était là, spectateur des horribles choses que nous voyons. Tous les jours.
D'ailleurs, c'est un petit test qu'on pourrait faire passer à ceux qui se destinent à la présidentielle. On pourrait leur demander s'ils ont lu les essais de Montaigne. On voulait leur poser des questions sur le revenu universel, non ?
Oui, ça, je crois qu'il faut éviter tout sujet culturel avec les politiques qui sont d'une ignorance totale, définitive, et peu importe. En tout cas, à l'âge de 12 ans, lycéen je suis, lycée Montesquieu, lycée Montaigne, et on emmène les élèves dans... voir à la Brède le château de Montesquieu, et puis la tour de Montaigne. Avec ce que j'ai dit tout à l'heure sur les émotions les plus violentes de mon existence, je me suis demandé pourquoi ce type s'était enfermé dans sa tour, on s'égorgeait sous ses fenêtres, hein, vous savez. Il était inquiet parce qu'il n'aimait pas les innovations calviniennes. Donc c'est ce qu'il dit. Donc on s'égorgeait sous ses fenêtres, c'était la guerre civile. Et pourquoi ce type s'était enfermé en écrivant sur les poutres ? Ça m'a impressionné pour la vie. Des formules latines et grecques. Il avait peur qu'on oublie le latin et le grec. Il avait bien raison, parce que nous sommes exactement dans une autre époque de mutation où vous avez oublié, vous n'en avez rien à foutre du latin et du grec. Eh bien, sans le latin...
Si, on en a beaucoup à faire, mais on nous interdit, maintenant on interdit à nos enfants et de l'apprendre à l'école.
Sans le latin et le grec, c'est l'obscurantisme galopant. Et déjà qu'il y a l'illettrisme, plus personne ne lit vraiment. La mémoire est un sport, il faut entraîner tout le temps. Comme je suis écrivain, je sais de quoi je parle. Et donc... sans latin et sans grec, ben vous allez au chaos.
À 12 ans, il vous est arrivé aussi quelque chose de très important dont vous parlez dans votre dernier livre, Beauté. Vous étiez seul à la campagne, dans une grande maison.
Eh bien, la foudre est tombée dans le jardin. La fenêtre était légèrement ouverte. Et j'ai vu ce phénomène incroyable, c'est la plus grande peur que j'ai eue de ma vie, je me suis failli. C'était une sorte de petite, vous voyez, un petit ballon, une balle de tennis un peu plus grosse, la foudre, qui montait et qui descendait. En principe, ça aurait dû enflammer les rideaux et tout aurait dû cramer. Elle est montée, elle descendait comme ça, et puis finalement, elle est ressortie. Donc, j'ai vu la foudre. Alors là, ça évoque quelque chose qui se passe en Grèce, dans le roman, à Égine, très précisément, dans le temple d'Athéna Aphaïa, c'est l'héroïne du roman et pianiste virtuose, et est née là, donc elle a joué enfant dans ce temple, et nous y sommes allés, enfin dans le roman, le narrateur et elle vont là. Et là se produit un phénomène très étrange, très rare. Le ciel est complètement bleu, le temps est super, et tout à coup, un seul éclair, voilà. C'est arrivé à Heidegger, il raconte ça dans un cimetière sur Héraclite. Il était à Égine, à l'après-midi, ça lui est arrivé, et il dit, j'ai tout de suite pensé Zeus, c'est-à-dire, c'était la manifestation du grand dieu grec. Un éclair, c'est tout. Mais pas d'orage, pas de tonnerre, rien.
La manifestation des dieux.
De ce dieu-là, en tout cas, qui est très, très différent de tous les autres. Enfin, en tout cas, ça n'est pas un monotonneau théisme. C'est, nous avons des déesses aussi, dont le temple des déesses, qui a ma préférence parce que je me sens protégé par elle. C'est le grand livre de ma vie, c'est l'Odyssée, vous savez, Ulysse, et voilà, qui est aimé par Athéna, qui lui prête main forte. J'aime beaucoup les déesses grecques, surtout celle-là.
Alors, on vous sait amoureux de la musique classique, on vous sait grand mélomane. Vous apparaissez dans ce livre comme étant à la fois amoureux du jazz et collectionneur de vieux 75 tours de jazz. On sait moins que vous aimez beaucoup le sport et nous allons entendre une de vos idoles, extrait d'une interview sur TV5 Monde par Patrick Simonin le 22 septembre 2010.
Quand j'étais enfant, j'aimais aller voir l'Olympique de Marseille. Et mon joueur préféré, mon idole, c'était Enzo Francescoli, qui évoluait justement à l'Olympique de Marseille. Et ça a été mon exemple, en fait. C'est celui avec lequel auquel je voulais ressembler. Et voilà, par la suite, j'ai même pu jouer contre lui. J'ai pu avoir finalement réalisé mon rêve, c'était d'avoir son maillot. Donc du coup, on avait joué contre la finale de l'Intertoto au Japon. Et on avait pu échanger notre maillot. Et du coup, mon rêve, c'était justement d'avoir son maillot et de dormir avec, et je l'ai fait. Je l'ai fait, alors 20 ans plus tard, mais je l'ai fait.
Et maintenant, il y en a qui dorment avec votre maillot, Zinedine, et qui rêvent. Ouais. Et puis, alors, vous avez votre papa, un an pour économiser pour votre première paire de chaussures de foot, quoi.
En fait, c'était une chaussure spéciale, ouais. C'était une chaussure Adidas, une Copa Mondiale à l'époque qui valait 500 francs. Et c'est vrai que mon papa avait économisé une année pour pouvoir me l'acheter. Ben c'était magnifique, mais c'est aussi ça. Enfin, ce que je retiens en fait de mon enfance et de tout ça, c'est que le fait que même dans la difficulté, pour moi, alors aujourd'hui peut-être c'est un peu moins fort, mais à l'époque, je peux vous assurer que recevoir une paire, une Copa Mondiale, c'était comme recevoir la Coupe du Monde.
Ouais.
Alors le coup de boule ou pas seulement le coup de boule?
Le football, oui, j'étais un assez bon ailier droit. Le corner au cordeau. C'est très important le fait d'utiliser son corps dans certaines dispositions, pas seulement le sport, partout. On peut nager, on peut faire beaucoup de choses. Ce qui m'intéresse là, puisque je m'occupe de la Grèce, d'une musicienne grecque qui vit dans ce pays ultra sinistré, c'est-à-dire vraiment avec une dictature bancaire sauvage, c'est de faire apparaître la beauté à l'intérieur de la dévastation. Donc, le temple est là, le piano est là, elle peut jouer Jean-Sébastien Bach, etc. Bon, d'accord. L'hommage que je peux rendre à la Grèce est d'une sorte de ferveur, de foi énorme. Et là, qui je convoque, que j'ai sous la main avec le sport? Mais Pindare, bien sûr, ce poète immense. Les Jeux Olympiques, d'accord, c'est les Jeux Olympiques d'aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a de reportage. Mais les Jeux Olympiques, c'est d'abord ce poète immense, trop peu connu, qui s'appelle Pindare. Et les Jeux Olympiques, c'est la gloire de la Grèce, bien entendu. Voilà, donc Pindare est le contrat d'un poète maudit. tout le monde l'admirait, il était demandé partout, super bien payé, on dirait aujourd'hui, mais incroyablement bourgeois, si vous voulez, pas du tout aristocratique bien sûr, mais c'est un poète admirable, les pythiques, les ismiques, les déméennes, si vous ouvrez mon roman, vous avez un choix tout à fait convaincant, des grands, grands poèmes de Pindare, et c'est d'une beauté, puisque le roman s'appelle Beauté, absolument souveraine.
Alors, ça s'appelle roman, effectivement, Beauté, ce dernier roman. Vous avez, depuis quelques années, et même des décennies, réinventé l'art du roman. Il y faut, dites-vous, de la vitesse, du mouvement, de la grâce, du discontinu. Il y faut aussi du zapping temporel. Vous dites là, Philippe Solers, que dans ce roman Beauté, il y a effectivement le personnage principal d'une pianiste qui est d'origine grecque et qui vit aux quatre coins du monde puisque elle y fait des concerts. Elle vous appelle de temps en temps, ou en tout cas elle appelle le narrateur qui vous ressemble furieusement. Mais il y a aussi Heidegger, mais il y a aussi Hegel, mais il y a aussi Georges Bataille. D'ailleurs, Georges Bataille, on va l'écouter à propos de l'expression de sa propre pensée, archive INA de 1954, au micro de Roger Grenier.
La philosophie, en général, est une question de contenu. Mais je fais, pour ma part, appel davantage à la sensibilité qu'à l'intelligence. Et dès ce moment, c'est l'expression par son caractère sensible qui compte le plus. D'ailleurs, ma philosophie ne pourrait en aucune mesure s'exprimer sous une forme qui ne soit pas sensible. Il n'en resterait absolument rien. C'est seulement à partir du moment où je donne une forme qui pourrait passer pour passionnée, qui peut aussi passer pour noire, mais je préfère dire que je suis un philosophe heureux parce que je ne crois pas être plus noir que Nietzsche. Il y a, à partir d'un certain moment, une nécessité pour la sensibilité de faire appel au trouble. On ne peut pas émouvoir sans que le trouble soit en jeu. Mais malgré cela, n'est-ce pas, le trouble ne signifie pas, le malheur ne signifie pas le noir. La pensée ou la sensibilité ne peuvent guère s'exprimer qu'à une condition, c'est de faire une sorte de tour, de ramasser la totalité du sensible et de l'intelligible que l'on a pu toucher.
Oui, admirable penseur, admirable romancier, admirable de tous les points de vue à la fois. C'est une de mes plus grandes admirations. Lorsque Georges Bataille venait l'après-midi entrer dans le bureau de cette revue qui s'appelait telle qu'elle à l'époque, s'asseyait dans un silence étourdissant. Je l'entendais se taire, je l'écoutais. Il était pour moi tout à fait sacré, hein, tout à fait étonnant. Et parce que j'ai les livres de Bataille, il faut les relire sans arrêt. Il a fallu 40 ans après sa mort pour que ses romans paraissent dans une édition de la Pléiade. Vous savez qu'il a fallu que 2 ans pour faire la Pléiade de Jean d'Ormesson. Il faut relire de Bataille Le Bleu du Ciel, qui est un livre que je cite là, qui a été écrit à Barcelone en 1935 et publié beaucoup plus tard. Il est sur le terrain et d'une façon tout à fait révolutionnaire, d'une certaine façon, mais révolutionnaire sans engagement, dans un détachement constant. C'est ça qui est très important chez lui. Et Madame Edwarda est un livre que vous pouvez relire et qui est, oh, surprise, vous l'ouvrez et vous tombez sur une citation de Hegel. Vous citiez. Donc, qu'est-ce que Hegel vient faire en exergue d'un livre extrêmement pornographique? Voilà, ça m'intéresse. C'est-à-dire la contradiction même entre plusieurs choses. Le sensible, comme lui le dit, mais le sensible pris toujours dans des contradictions. Il n'y a pas de scène plus étonnante que les scènes d'ivresse de Georges Bataille. Il est très souvent ivre et dans des situations extrêmement sombres. Mais Le Bleu du Ciel, voilà exactement ce qu'il veut dire. Il est dans des situations tout à fait scabreuse, voilà, bordel, voyeur, mais il est aussi à Lascaux, vous comprenez. En 1955, le premier témoin sensible, hypersensible de Lascaux, c'est Georges Bataille. Et j'ai lu ce livre, à l'époque j'avais 18 ans, j'ai pris une voiture, je suis allé tout de suite à Lascaux, d'où j'ai retiré une impression absolument magnifique, enfin, comme si c'était un grand son qui m'était personnellement adressé. Bon, 1955, c'est le moment où Bataille publie deux livres. Et il faut le faire. Un, son livre sur Lascaux, splendide. Et deux, son livre sur Manet, splendide aussi. Est-ce que vous voyez ce qu'il faut, comment vivre pour être à la fois 20 000 ans avant notre ère, comme on dit, et sur une révolution de peinture comme Édouard Manet. Édouard Manet, c'est l'Olympia, hein, c'est-à-dire le tableau sur lequel tout Paris venait cracher.
Donc l'écriture, c'est la défiance vis-à-vis des conventions, c'est la suspension du temps, et puis c'est la possibilité de confrontation entre des périodes et des disciplines qui sont non homogènes. Créer des accidents. On peut revenir au coup de foudre, d'ailleurs, hein, ou à la foudre de tout à l'heure.
La beauté surgit. Nous sommes dans une époque de dévastation.
Nous sommes dans et une époque... Et d'éloge de la laideur, dites-vous.
Nous sommes dans une époque de laideur. Ce qui est faux est laid. Ce qui est vrai est beau. C'est tout simple. Les sorcières de Macbeth, vous savez, sont là en train de dire « ben nous allons instaurer un nouveau régime. Le vrai est faux, le faux est vrai, le laid est beau, le beau est laid. » C'est pas vrai. C'est fait pour les sorcières, peut-être, de Macbeth. Enfin, dans une vision du monde où en effet, la détérioration devient tout à fait officielle, si je peux dire. Là, nous sommes dans une déliquescence. J'ai écrit il y a déjà 15 ans un texte qui s'appelait « La France moisie ». Ça a fait beaucoup jaser, etc. Donc c'était un texte extrêmement offensif pour quelque chose d'autre. Le moisi, maintenant, c'est presque trop faible. Vous êtes dans une époque de déliquescence qui vous est présentée chaque jour, constamment, sous une forme de propagande que vous êtes forcé d'avaler et que vous le vouliez ou non. C'est donc très grave. Ce qui est en train de se passer est très grave.
Parce que ce sont les mots eux-mêmes et la structure du langage, donc de notre pensée, qui sont atteints, selon vous.
Ça va très loin, ça va beaucoup plus loin que les opinions. Ça, c'est le fait de ne pas pouvoir entraîner sa mémoire ou lire, tout simplement, lire. Je sais de quoi je parle, je m'occupe d'édition, je vois ce qui se passe de très près. Toute ma vie, je me suis occupé de ça. Je vois à quel point il est difficile pour un jeune auteur, par exemple, d'avoir... et je m'occupe de ça. J'essaye de les aider au maximum. Et j'y arrive, quand même, contre vents et marées, parce que l'argent. Voyez-vous l'argent ? L'argent. Mais on ne fait pas de l'art avec de l'argent. Il faut que le temps passe et qu'on se fasse à l'idée que ça vaut quelque chose. Mais chercher la valeur immédiate, comme aujourd'hui, c'est quand même tout à fait préoccupant. Et surtout, on tombe de plus en plus dans l'illettrisme, l'analphabétisme, l'ignorance. L'ignorance engendre la violence. Et nous y sommes tout près. J'ai un nez extrêmement fin pour tous les phénomènes de fascisme. Je sens ce que je sens. J'ai été élevé à sentir ça par des bourgeois éclairés. Justement, ils avaient cet instinct qui consistait à, attention, pas de cette France-là. Alors l'Angleterre, on va écouter Radio Londres. Les Français parlent aux Français.
Et nous, grâce à vous, on a compris depuis longtemps, d'ailleurs je ne sais pas à quelle période de votre vie, était-ce dans l'enfance, dans l'adolescence ou plus tard, Philippe Solers, que vous avez commencé à écouter de la musique, à être en suspension dans la musique. En tout cas, nous allons écouter Martha Argerich, Bach, suite anglaise numéro 2, en la mineur, la gigue.
Ah, une merveille. Thank you.
Je regarde avec Lisa des partitions autographes de Bach, Haydn, Mozart et Webern. Pour elle, ce sont des textes sacrés, elle les entend. Elle est très émue de voir la main de Bach, celle de Haydn, celle de Mozart, celle quasi mathématique de Webern dans ses variations de 1936. Pas seulement leurs mains, mais leur corps, leur cœur, le temps qu'ils faisaient ce jour-là, la foule des circonstances, voilà. La plume, l'encre, l'oreille, les doigts. C'est ce que vous écrivez dans votre dernier roman, Philippe Solaire, s'intitulé « Beauté ». Et non seulement votre personnage principal, Lisa, est une pianiste, mais au cœur de ce livre, vous reproduisez des partitions de musiciens. Est-ce que pour vous, l'écriture romanesque est une forme de partition aussi?
Oui, je ne dis pas que j'écris, j'essaye de composer. C'est tout à fait différent. On peut écrire, écrire, écrire. Il y a beaucoup de gens qui écrivent. Je n'arrête pas de recevoir des manuscrits de gens qui écrivent. Mais seulement, ce qui est embêtant, c'est que c'est pas composé, voyez-vous. Donc, on peut faire de la musique avec les mots. Mais ce qui m'intéresse, c'est de repérer, d'observer le corps des musiciens. Finalement, je n'ai plus d'estime que pour les musiciens. Tout le reste peut être triché. La littérature, les romans, les installations de peinture, tout ça est triché, plus ou moins. Ça vaut pas grand-chose. Les musiciens, vous savez, c'est absolument impossible. Vous ne pouvez pas, je ne peux pas vous inviter à écouter une sonate de Mozart jouée par moi. C'est pas vrai. En revanche...
Pourtant, vous jouez.
Oui, non, comme ça, pianote. Non, un peu de jazz, comme ça. Mais ce qui m'intéresse, c'est de regarder les musiciens. Par exemple, Martha, que l'on vient d'entendre, qui est un génie. Vous la regardez. Je suis en train de tourner un petit film sur elle.
Quelle chance vous avez!
Oui, c'est une amie que j'ai rencontrée il y a longtemps. Mais donc, je la regarde jouer. Et je vois qu'elle dort profondément. Pas de partition, justement, sous les yeux. Tout est su par cœur. Vous avez vu la difficulté de mémoriser toutes ces notes à la voix. Vous regardez ses mains, vous regardez la main gauche, la main droite. Il y a quatre mains brusquement et vous ne savez plus très bien où vous êtes, surtout dans Bach. Si c'est bien joué comme Gould sait le faire, elle dort profondément. C'est très, très émouvant. Elle a... Donc, ce sont les mains qui voient. Vous voyez, le corps a des aptitudes qu'il faut étudier, c'est ça la beauté. L'œil écoute, les oreilles voient, et les mains peuvent voir aussi. La musique est supérieure à tout, parce que c'est le temps. Là, vous êtes dans des intervalles de temps. Gould n'aimait pas aller en concert, Martha Argerich non plus. Elle décommande ses concerts, elle ne veut pas être dans une salle où il y a des spectateurs. Gould a compris ça. L'enregistrement, c'est la façon brusquement de traquer au dixième de seconde, au centième de seconde. Qu'est-ce que c'est qu'une note? La note, il y a l'envers de la note. Un musicien qui vous fait sentir, qui joue pas comme ça mécaniquement, mais qu'il est complètement investi avec passion, avec, comme si sa vie en dépendait, comme si c'était la première fois qu'il jouait chaque fois. Je crois que c'est ça, le fait de vivre, c'est d'essayer de vivre tout pour la première fois. Voilà, comme les musiciens font. Et ça, c'est toujours la première fois. On devrait se réveiller chaque matin en disant « je me réveille pour la première fois ».
Parlons de votre sommeil, Philippe Solaire. Vous dites, il y a deux types d'insomnie pour vous, celle de 3h du matin et celle de 5h du matin.
Oui, c'est pas du tout la même chose.
Dormez quand vous écrivez, comme Martha Argerich dort quand elle joue?
Je crois que le mot important là, c'est le mot que j'invente exprès, qui s'appelle « rêverai ». C'est-à-dire le fait que l'épanchement du rêve dans la vie réelle, ça c'est Nerval, on connaît ce drame d'ailleurs très important, mais vous avez aussi la vie réelle qui peut rentrer dans le rêve. Donc vous êtes à la limite du rêve et de la réalité, soi-disant. J'appelle ça rêverai, je rêve vrai. Là, il y a une scène d'ailleurs où je rêve que ma mère est vivante alors qu'elle est morte, etc. Donc c'est très très émouvant pour le narrateur. Et le fait de rêver, j'aime bien ce mot parce que ça n'est pas faux. Le rêve dit beaucoup de choses. Monsieur Freud est venu s'en occuper quand même. Il a disparu, tout le monde l'attend, je sais pas pourquoi. D'ailleurs, la science des rêves, c'est un livre absolument génial. Donc s'occuper d'être très très précis dans la façon de rêver, comme si on pouvait diriger les rêves. C'est ce que pensait André Breton ou les surréalistes, Hervé de Saint-Denis, des rêves et les moyens de les diriger. C'est une sorte de technique de discipline à laquelle il faut se livrer, puisque on vous ment tout le temps. Donc on vous fait vivre dans une sorte de fiction complètement ahurissante. Vous n'avez pas le droit de poser des questions. De toute façon, vous ne savez pas ce qui se passe par en dessous. Vous ne pouvez pas retourner les cartes. On vous raconte ce qu'on veut vous raconter. Vous ne savez pas, si je claque les doigts, combien de milliards sont en train de partir en fumée dans les paradis fiscaux. Bien qu'on ne parle que de ça.
Oui, vous chiffrez, des éléments de la réalité, hein, dans votre dernier livre. Voilà. Combien d'ordinateurs vendus par jour, combien de tonnes de coke achetées, combien, etc., etc.
Combien de mails envoyés depuis 10 minutes.
Oui. Voilà.
C'est ça la mondialisation. La mondialisation ou la globalisation.
On ne quantifie pas encore nos rêves.
Non, parce que je pense que c'est ça le problème. Il y a quelqu'un qui me semble très raisonnable, qui est Patrick Boucheron, historien au Collège de France, et qui a proposé d'ailleurs un livre que je trouve extrêmement important, qui s'appelle L'histoire mondiale de la France. Eh bien, je crois que c'est ça. Vous êtes en face de gens qui sont soit pour une petite France rétrécie, moisie, comme j'ai dit autrefois, déjà prophète, et là, ça va encore être pire. Ces jours-ci, ou demain, et vous êtes dans une perspective que j'approuve absolument. Mon livre, c'est ça aussi, c'est l'histoire mondiale de Bordeaux, par exemple. Eh bien,
je dirais plutôt l'histoire mondiale de la beauté, hein, qui passe par l'art pariétal, l'éloge de la musique. La lecture de la méditation philosophique.
Je cite Bordeaux parce que, j'en ai parlé tout à l'heure, mais
la contemplation du ciel et des mouettes.
À cause du voyage d'Hölderlin, qui est si émouvant. Hölderlin, poète allemand, part, il croit aller en Grèce. Et en effet, il est en Grèce. Il décide qu'il est en Grèce. On va dire qu'il est un peu bizarre, ce très grand poète. À Bordeaux, en 1802. Le plus beau poème qu'on ait écrit, enfin pour moi, le plus beau poème d'Hölderlin, qui s'appelle Un Denken Souvenir, c'est un poème absolument magnifique. Le vent du Lorraine se lève, porte mon salut au jardin de Bordeaux et à la royale Garonne. C'est drôle cet Allemand qui vient là, en pleine post-révolution française. Voilà, c'est très très beau. Et les poètes seuls fondent ce qui demeure. Voilà. Ça, c'est très étonnant comme formulation, et j'en profite, puisque on l'exécute toutes les semaines et que je suis pas d'accord, pour dire qu'il faut absolument lire Approche de Hölderlin de Martin Heidegger.
Mais on va revenir sur Heidegger, mais dans votre histoire mondiale de Bordeaux et dans vos nombreuses constellations amoureuses, Philippe Solers, j'inclus Venise. Nous allons entendre la voix de Dominique Rollin qui va parler de son travail d'écriture à Venise.
Quand je suis à Venise, je travaille 3 heures par jour, le matin toujours. Et au moment où j'ai terminé le travail, toujours à la même heure, parce que j'ai une sorte d'horloge interne qui m'avertit, j'ai l'impression d'avoir voyagé. C'est vraiment toute une expédition que j'ai faite. Là-bas, ce qui est merveilleux, c'est que d'abord, il y a l'air libre. On a l'impression que le ciel collabore à l'écriture. L'eau collabore à l'écriture. Les mouettes collaborent à l'écriture. Les gens qu'on rencontre, qu'on ne connaît pas, ce qui est si précieux à Venise, c'est que je ne vois rigoureusement personne. J'ai besoin de solitude. Je trouve qu'on ne peut pas travailler. Enfin, il y a des gens qui adorent travailler en communauté ou avec une atmosphère d'amitié, même d'élan autour de moi. Impossible. Je me retire au fond d'un moi-même qui est encore un autre fond d'un autre moi-même. Je ne reconnais plus personne.
Nous venons d'entendre la voix de Dominique Rollin. Vous annoncez dans votre avant-dernier livre, Philippe Solers avec Franck Nouchi, intitulé « Contre-attaque », la publication de votre correspondance avec cette grande écrivaine qui était Dominique Rollin. Qu'en est-il ?
Oui, grande écrivaine et grand amour de ma vie. Donc là, ça sera en octobre, un premier volume, et il y en aura peut-être 4 ou 5. On s'est écrit des milliers de lettres. Donc je crois que c'est intéressant parce que je la rencontre, j'ai 22 ans, elle en a 45, elle en paraît 33. le choc est immédiat, réciproque, immédiat. Sa beauté est absolument éclatante, et en plus elle a le caractère que vous venez d'entendre, c'est-à-dire concentrée absolument, farouchement pour sa propre liberté, maintenue contre tout le monde. Et ça, donc, vraiment, c'est une clandestine, comme je souhaitais l'être, moi aussi. Donc, il se trouve qu'à 22 ans, elle a pensé, je vois les lettres qui vont paraître, elle a pensé que je savais écrire. Et en effet...
Elle n'était pas la seule, puisque François Mauriac aussi a pensé la même chose.
Voilà, voilà. Donc, je pense que ça sera un document tout à fait étonnant, qui aura plusieurs volumes. C'est la Bibliothèque Royale de Belgique, elle était d'origine belge, elle avait la nationalité française, mais plus loin, venant de Pologne, juive polonaise, Lodz, et passant par la Hollande, avec toute une force... De survie considérable, et c'est l'Académie royale de Belgique qui s'est occupée de ça, donc très bien.
Ben j'espère qu'on en profitera, que Gallimard en profitera pour republier les textes admirables de Dominique Rollin. Vous savez, Philippe Solers, dans cette émission, on demande à une personne qui connaît bien le travail de l'invité de pouvoir s'exprimer sur ce travail. Nous avons demandé à Philippe Forest que vous avez édité, dont vous avez été le premier a édité toute cette série de livres. Le premier s'intitulait « L'enfant éternel » et c'était paru aux éditions Gallimard dans votre collection
«
L'infini ». Très très beau livre. Le dernier est sorti en septembre dernier, il s'intitule « Cru ». Il connaît votre travail depuis très longtemps. Il a même fait une thèse et un livre sur votre revue que vous avez créée qui s'intitule « Tel quel ». Nous écoutons Philippe Forest.
Alors j'ai fait la connaissance de Philippe Solers il y a très longtemps, il y a une trentaine d'années maintenant. J'avais découvert ses livres alors que j'étais tout jeune, j'avais une vingtaine d'années. J'avais lu d'abord les livres expérimentaux, enfin certains des livres expérimentaux qu'il a écrits à l'époque de Tel quel, et puis notamment Paradis, et puis il y a eu la publication de Femmes qui a été à l'époque un vrai événement. Et par la suite, donc, j'ai fait ma thèse de doctorat à la Sorbonne sur les romans de Philippe Solers, ce qui m'a amené à faire sa connaissance à la fin des années 80, début des années 90. Voilà. Cette thèse a été publiée, et puis après, j'ai fait un autre livre dans la foulée consacré à la revue qu'il a dirigée, la revue Tel quel. Et puis, il a publié donc mon premier roman, c'était il y a 20 ans, L'enfant éternel. À l'époque où j'ai lu les premiers livres de Philippe Solers, je les ai lus parce que j'étais curieux de savoir à quoi ressemblait un écrivain vivant et une littérature vivante. Et c'est vraiment l'impression qu'a produite sur moi la lecture de Philippe Solers, des livres qui étaient très différents, disons, du tout venant de la production romanesque française. Ils sont restés d'ailleurs différents à leur manière, qui est différente, si j'ose dire, de celle qu'elle était autrefois. Et il y avait pour moi quelque chose de très vivant, de très stimulant, de très brillant dans tous ces livres. Et aujourd'hui encore, je considère que Philippe Solers est certainement l'un des écrivains français les plus importants d'aujourd'hui. Je suis en train de lire Beauté, que j'ai reçu avant-hier, je crois. Et je retrouve dans ce livre-là, pour autant que je puisse en parler puisque je ne l'ai pas encore fini, hein, ce qui m'a beaucoup frappé dans les livres que Solers écrit depuis 30 ans, et particulièrement dans le précédent mouvement dont j'avais rendu compte dans le magazine Art Press. Il me semble que ce sont des livres qui ressemblent en fait beaucoup à ceux qu'il écrivait autrefois, et sous une forme bien sûr nouvelle, dans l'article que j'avais consacré à Mouvement et auquel je viens de faire allusion. J'insistais sur le fait qu'il y avait chez Solers quelque chose de très particulier, qui est la manière dont il réussit assez magnifiquement à s'émanciper des contraintes qui pèsent sur les romanciers plus conventionnels. Il se libère de l'histoire, de l'intrigue, et tous ses livres forment comme une sorte de long feuilleton dans lequel on est attentif, comme il le disait justement dans Mouvement, à ce mouvement de l'esprit dont il écrivait qu'il est le seul vrai roman. Il y a une formule d'Isidore Ducasse que Solers cite souvent quand il parle d'un feuilleton permanent, Ducasse, et je crois que c'est ce feuilleton permanent que donne à lire depuis 30 ans et même davantage les romans de Solers. C'est un nouvel épisode que nous propose aujourd'hui Beauté.
Réaction, Philippe Solers?
C'est quelqu'un qui sait lire, et donc qui sait écrire, et donc qui sait de quoi il parle, et J'aime beaucoup ce que pense Philippe Forest. Je suis content de l'avoir publié, et ça fait partie de mon métier, de savoir lire les autres. C'est une qualité qui n'est pas si courante. Je peux lire les autres.
L'art du roman est-il terminé? Et vous, Philippe Solers, êtes-vous encore vivant?
Le roman est éternel, le vivant est éternel, immortel, et donc il y a des périodes plus ou moins creuses, des périodes plus ou moins noires, des périodes plus ou moins ignorantes. Moi, je suis très très confiant, au contraire, et tout simplement parce que je manie cette langue absolument magnifique, qui est la langue française, que je crois savoir manier. Donc toute la bibliothèque me parle constamment. Tout va bien, oui, non.
La bibliothèque ou les CD?
Non, la bibliothèque, sur papier, oui. Voilà.
Parce que vous dites aussi, dans ce dernier roman, Beauté, que eh bien, vous écoutez un quart d'heure de musique, et puis qu'ensuite vous restez 2 heures en silence après l'écoute de cette musique, et puis que la pile de CD paraît inépuisable.
Oui, il y a la musique, mais il y a surtout...
C'est quoi l'emploi du temps de Philippe Solers?
Oh là!
Toujours le même?
Oui, discipline totale. Oui,
La journée commence par la lecture de la Bible?
Non, pas forcément, non. La journée commence par les informations, comme tout le monde, où je me délecte de la façon dont la politique évolue.
Ah ben en ce moment, oui.
Oui, en ce moment, c'est particulièrement intéressant. Et puis, il m'arrive de regarder des documentaires le matin, tôt. Donc, il y en a de très bien sur Arte. Archéologie, voilà. Après quoi, ben écoutez, je travaille tout le temps. Ben l'après-midi, je vais à mon métier qui est de faire des revues, et c'est très intéressant de faire des revues, je trouve aussi. Il y a cette revue qui s'appelle L'Infini, qui est bon probablement ce que j'ai fait de mieux dans ma vie, puisque nous arrivons au numéro 139 sans qu'il en soit jamais question nulle part. Ça, je trouve que c'est du grand art. Une revue qui est à son numéro 139. Et qui a publié des tas d'écrivains que nous avons cités, qui sont tous excellents. 139 numéros, pas une seule ligne dans les médias. C'est pas fort, ça?
Mais ça n'empêche pas la revue d'exister.
Écoutez,
Le silence, l'art du silence. Vous nous conviez à l'art du silence dans vos écrits.
L'art du silence, je le connais très bien.
Et vous le pratiquez.
C'est une science aussi, le silence. Non, dernier mot. J'ai cherché dans les archives de Gallimard si André Malraux, à la demande du général de Gaulle, avait proposé aux éditions, à la Nouvelle Revue Française de l'époque, de publier des notes, parce qu'elle s'ennuyait, des notes d'Yvonne de Gaulle. Voilà. Alors j'ai cherché avec fureur pour savoir si Madame de Gaulle avait été rétribuée par la Nouvelle Revue Française pour faire des notes de lecture sous la pression d'André Malraux, qui était un personnage quand même assez convaincant.
Et Yvonne a-t-elle touché des indemnités de licenciement?
Vous imaginez le téléphone du général. Allô, Malraux, oui. Vous ne pourriez pas, parce qu'Yvonne s'ennuie, vous comprenez? Donc, vous pourriez lui demander à la NRF, vous êtes puissant chez Gallimard, de la rétribuer pour des notes de lecture. Voilà où nous en sommes, chère madame. Eh ben moi, je fais évidemment tout le contraire de la revue dite des deux mondaines.
Alors moi, je lis Beauté, et je lis à la fin de Beauté, que j'ai beaucoup aimé, ce paragraphe que je vais lire de vous, Philippe Solers. Je ne sais pas si c'est le narrateur ou si c'est bien vous. Je rentre, j'allume la musique, je l'éteins, je dors. C'est bientôt la nuit, une autre façon de veiller, en s'enroulant dans les rêves. En société, personne ne remarque rien, c'est drôle. Pour certains, j'ai eu un passé fâcheux et répréhensible. Ils attendent que je m'explique ou me justifie. Ce sont les meilleurs témoins et je m'en tire avec quelques plaisanteries. Les autres s'en foutent.
Oui. Vous savez la devise qu'avait choisi Stendhal à la fin de sa vie, il était un peu mélancolique, mais toujours avec gaieté d'une certaine façon. SFCDT. Il écrit ça dans plusieurs lettres. SFCDT. Ce n'est pas un syndicat, non. SFCDT. Se foutre carrément de tout.
C'est pas mal. En tout cas, moi, je me fous pas de votre dernier livre. qui est très beau et qui s'appelle Beauté.
Merci Laure, c'est gentil.
Merci Philippe Solers. Et pour vous, et pour nous quitter, ça va être dur de vous quitter, on vous propose Froid. C'est pas mal, non, pour vous, Froid?
Très bien.
Laura Cahen.
Très bien.
Le dernier livre de Philippe Solers vient de paraître aux éditions Gallimard. Il est donc intitulé « Beauté ». Merci à Thierry Dupin, merci à Claire Destacan qui a réalisé cette émission, qui a été préparée comme chaque soir par Élodie Royer, Anne-Sophie Dazard et Arthur Daniel, avec à la technique ce soir Kevin Pelot. Et après le journal, vous retrouverez comme chaque soir « A Very Good Trip » avec Mishka.